Radio Prague, les informations. Bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Prague. Le président tchèque Václav Klaus met en garde contre le populisme en Europe suite à l'accident nucléaire au Japon. La police pourrait avoir retrouvé le corps de la petite fille de 9 ans disparue à Prague en octobre dernier et puis les députés ont adopté un amendement pour lutter contre l'afflux de nouvelles drogues de synthèse. Le président de la Slovénie, Danilo Turk, a été reçu par son homologue tchèque, Václav Klaus, au château de Prague ce mercredi. À cette occasion, les deux chefs d'État ont mis en garde contre le populisme et la propagation de la panique après que l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon ait relancé ces derniers jours le débat en Europe sur la limitation de l'énergie nucléaire. Selon Václav Klaus et Danilo Turk, la situation au Japon est tout à fait exceptionnelle. Elle devrait donc servir de base, pour un débat spécialisé sur la plus grande sécurité des centrales nucléaires, mais ne doit pas entraîner de décisions politiques populistes. Le président tchèque a qualifié, je cite, de populisme opportuniste, les voix appelant une limitation de l'énergie nucléaire au sein de l'Union européenne. La police a trouvé mercredi après-midi un corps dans le quartier de Troja, à Prague. Bien que la police n'ait pas indiqué s'il s'agit d'un corps d'adulte ou d'enfant, les médias tchèques ont annoncé qu'il pourrait s'agir du corps d'Anička Janatova, une petite fille de 9 ans disparue dans les environs le 13 octobre dernier alors qu'elle rentrait de l'école. L'expertise en cours permettra de confirmer ou non cette information. Malgré les importantes recherches menées, seul le sac et une bouteille appartenant à la fille ont été jusqu'à présent retrouvés. La police a indiqué que le corps était enterré à plusieurs mètres de profondeur, ce qui explique pourquoi les chiens de la police ne l'aient pas trouvé lors des recherches précédentes. 33 nouvelles drogues de synthèse vont figurer sur la liste des stupéfiants qui seront désormais interdits en République tchèque. Un amendement allant dans ce sens a été approuvé mercredi en première lecture par la Chambre des députés dans une procédure accélérée. Il s'agit d'une réaction à la prolifération rapide de nouvelles drogues de synthèse, notamment en Moravie du Nord. Les autorités tchèques ont découvert il y a quelques mois que ces drogues étaient vendues dans des magasins spécialisés proches de la frontière polonaise. Ces produits, parmi lesquels la kétamine, la méphédrone et le carfentanil, ne faisaient pas encore l'objet d'une interdiction à la vente libre sur le territoire tchèque. Après une fermeture de 3 ans, la République slovaque a rouvert son consulat à Brno, capitale de la Moravie. Ses bureaux assureront les services consulaires pour l'ensemble de la Moravie. Le consulat avait été fermé en raison des restrictions budgétaires. Depuis, la Slovaquie n'était plus représentée sur le plan diplomatique en République tchèque que par son ambassade à Prague. La décision de fermer à Brno avait provoqué de vives protestations parmi les Slovaques vivant en République tchèque. L'ambassade était cependant tellement surchargée de travail que le ministère slovaque des Affaires étrangères a finalement été contraint de rouvrir son consulat à Brno. Les artistes de l'Opéra d'État de Prague ont protesté mardi soir contre le projet de réforme de leur théâtre. Selon eux, le ministère de la Culture prépare la fusion de l'Opéra d'État et du Théâtre National de Prague. Les artistes se sont présentés sur la scène devant le public avant la représentation de la Traviata pour manifester une nouvelle fois leur opposition aux tentatives de réunir les deux établissements. Selon eux, une telle solution ne contribuerait pas à un meilleur niveau artistique de l'ensemble, ni à un fonctionnement plus économique du théâtre. Selon le vice-ministre de la Culture, la fusion n'est cependant qu'une des solutions envisagées par le ministère. On passe au sport et au tennis. Tomáš Berdych s'est qualifié mardi pour les 8e de finale du tournoi d'Indian Wells, un Masters 1000 aux États-Unis, en battant le Brésilien Tomáš Belucci, 28e mondial, en 2-7, 6-3, 6-2. Ce mercredi, le Tchèque, tête de série numéro 7, sera opposé au Suisse Stanislas Wawrinka. Les Masters 1000 sont, rappelons-le, une série de 9 tournois disputés durant la saison. Ils constituent la deuxième catégorie de tournois la plus importante après les 4 épreuves du Grand Chelem. On termine avec un mot de météo. Comme mercredi, c'est un temps nuageux qui prévaudra sur l'ensemble du territoire. Jeudi, le jour de la fête des Vlastimil, de fréquentes averses sont prévues un peu partout, à l'exception de l'extrémité est du pays. Les températures varient entre 8 et 13 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie. Tout de suite, retrouvez Alexis Rosenzweig pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour. Vous êtes toujours à l'écoute du programme en français de Radio Prague. Merci à Guillaume Narguet pour le bulletin d'information. Et dans notre émission aujourd'hui, nous reviendrons bien sûr sur les événements catastrophiques au Japon et surtout sur les réactions en République tchèque. Une vente aux enchères pas comme les autres ensuite qui va se dérouler au mois d'avril à Berlin. Il s'agit de lettres signées par Franz Kafka et envoyé à sa sœur Otla. La société Franz Kafka basée à Prague aimerait que les autorités tchèques fassent un effort pour acheter ce courrier inestimable. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, un nouveau chapitre de l'histoire et nous parlerons du centre Malar qui se trouve à l'université Charles de Prague, un centre qui réunit des archives et des témoignages, plus des dizaines de milliers de témoignages sur la Shoah. Je vous souhaite une très agréable écoute de ce programme. Deux avions de l'armée de l'air tchèque ont décollé ce mardi à destination du Japon. Initialement, ceci était prévu pour rapatrier les membres de l'orchestre philharmonique tchèque en tournée là-bas, mais devant l'urgence de la situation, le gouvernement a décidé de donner la priorité aux femmes et aux enfants. Les diplomates tchèques sur place devraient décider de la composition des passagers à évacuer en priorité, et les deux avions spéciaux devraient être de retour jeudi. Plus d'informations avec Alimuddin Ousmani.
Le trafic aérien japonais est fortement perturbé depuis le séisme et les explosions survenues à l'intérieur de la centrale nucléaire de Fukushima. Les aéroports sont saturés, tant par les Japonais que par les étrangers. Tout le monde souhaite quitter les régions menacées par les fuites radioactives. Les prix des billets d'avion ont atteint des sommes astronomiques. Le premier ministre tchèque, Petr Nečas, a réagi mardi en annonçant une opération d'évacuation.
Vláda České republiky se rozhodla reagovat na živelnou katastrofu, která je.
Le gouvernement tchèque a décidé de réagir à la catastrophe naturelle japonaise en envoyant deux avions Airbus A319 de l'armée. En accord avec notre diplomatie sur place, nous allons évacuer certains de nos ressortissants. Si le nombre de passagers à évacuer devait être supérieur à 140, nous sommes prêts à envoyer les avions à nouveau.
Le 4
février dernier, avant la catastrophe, le Premier ministre avait défendu la politique nucléaire européenne. Non seulement il la qualifiait d'indispensable, mais il citait également ses avantages écologiques.
Nous sommes également convaincus que c'est une source d'énergie qui a l'avantage de ne pas comporter d'émissions. Il y a une contradiction réelle entre ignorer l'énergie nucléaire et vouloir simultanément abaisser les gaz à effet de serre de façon significative. Nous sommes convaincus que le temps est venu pour une renaissance de l'énergie nucléaire.
Cette position a été vivement critiquée par le président du Parti des Verts, Andrzej Liszka, qui s'est exprimé lundi pour Radio Prague.
La renaissance de l'énergie nucléaire est une aberration absolue. Elle est désavantageuse tant d'un point de vue économique qu'écologique. La République tchèque possède un immense potentiel d'économie énergétique qui compenserait le rendement de toute une centrale nucléaire. Il est donc pour cela plus avantageux d'investir dans des mesures d'économie que de construire de nouvelles centrales nucléaires. Ces constructions induisent un gaspillage de nos propres ressources et une exportation de cette énergie vers l'étranger au détriment d'une politique budgétaire saine, mais aussi au détriment de la sécurité des citoyens de la République tchèque.
La catastrophe nucléaire japonaise risque donc de sérieusement remettre en cause l'agrandissement de la centrale nucléaire tchèque de Temelín, prévue autour de 2020. Ces travaux doivent permettre d'augmenter considérablement la production d'énergie nucléaire du pays.
Une vente de lettres et de cartes postales peu ordinaire. Le 19 avril prochain, une centaine de courriers signés de la main de Franz Kafka seront mis aux enchères à l'Opernpalais de Berlin, la capitale allemande. Un trésor qui suscite évidemment la convoitise. Certains trouveraient naturel qu'il se retrouve à Prague, la ville de l'écrivain. À l'heure où la longue bataille juridique sur la propriété de l'œuvre manuscrite de Franz Kafka semble enfin toucher à sa fin au tribunal de Ramat Gan en Israël, c'est une bataille à main levée dans une enchère berlinoise qui se prépare en ce moment dans plusieurs pays. seront mises en vente exactement 45 lettres et 66 cartes postales envoyées par Franz Kafka à sa sœur cadette Otla, sœur dont il était le plus proche si l'on en croit cette correspondance déjà publiée en 1974. 111 documents originaux pour une mise à prix fixée à 500 000 euros, avec entre autres une carte postale des jardins de Versailles signée par le frère Franz et son ami Max Brod, mais aussi de longues lettres dont la directrice de la société Franz Kafka, Markéta Mališová, explique l'importance.
Les lettres rédigées par Franz Kafka ne sont pas de simples messages, ce sont de véritables compositions littéraires avec une expression et des impressions extraordinaires. Ces lettres à ses amis, à Max Brod et à sa sœur, Otla, sont à mon avis indissociables de l'œuvre de Kafka.
Basée à Prague, la société Franz Kafka a décidé de lancer un appel aux autorités tchèques pour qu'un effort soit fait en vue de récupérer les lettres à Otla, qui, comme les deux autres sœurs de l'écrivain, a été victime de la Shoah. Markéta Mališová considère que Kafka est un tel symbole pour Prague que posséder ses manuscrits aujourd'hui serait une très bonne chose.
Kafka était un auteur qui ne convenait à aucun régime totalitaire, pas au nazisme et pas au régime communisme non plus, avec ses relents d'antisémitisme dans les années 50. Ici, il a été oublié, même interdit, donc tous ses documents se sont évaporés et ont été sortis du territoire. À Prague, il ne reste que quelques documents administratifs et peut-être une ou deux lettres. Tous les manuscrits sont soit chez des privés, soit dans les archives allemandes de Marbach.
Ce centre des archives littéraires allemandes de Marbach, qui possède la deuxième plus grosse collection d'originaux de Kafka après Oxford, est également sur les rangs pour remporter les enchères d'avril prochain. Pour son directeur du département des manuscrits à Marbach, qui a indiqué avoir trouvé des sponsors privés, l'important est que ces lettres manuscrites restent accessibles aux chercheurs. On écoute Ulrich von Bülow.
Kafka est un auteur de la Weltliteratur.
Kafka est un auteur de la littérature mondiale. Ce n'est pas, à mon avis, une question de nationalité ou d'État. Il faut que ces documents soient dans une institution publique et non pas qu'ils finissent comme la lettre de Kafka à Felice Bauer, acquise aux enchères par un collectionneur privé. On ne sait pas aujourd'hui où elles sont ou si elles existent encore.
Pour l'instant, les autorités tchèques n'ont pas encore réagi à l'appel lancé par la société Franz Kafka. La dernière enchère remportée par une institution publique tchèque remonte à 2009, quand la région de Bohême centrale a versé environ 670 000 euros pour un manuscrit du Moyen-Âge vendu à Sotheby's à Londres. C'est déjà la fin de la première partie de notre programme en français, mais le programme se continue dans une poignée de secondes avec un nouveau chapitre de l'histoire et Jarka Gisubelova qui vous fait visiter le Centre d'Histoire Visuelle de l'Université Charles de Prague, qui est depuis l'année dernière l'un des trois lieux en Europe centrale où l'on peut avoir accès aux archives de l'Institut de la Fondation pour la Shoah. Le siège de cet institut se trouve à Los Angeles, à l'Université de Californie du Sud. Et pour ce qui est du Centre d'Histoire Visuelle de Prague, c'est tout de suite la visite avec Jarka Gisubelova et c'est la rediffusion d'un chapitre de l'histoire que nous avions diffusé l'année dernière.
Chapitre de l'histoire.
L'idée de recueillir autant de souvenirs personnels de la Shoah que possible pour qu'ils restent à la disposition des générations présentes et futures est née pendant le tournage de la liste de Schindler du réalisateur américain Steven Spielberg. Combien de temps a-t-il fallu pour fonder une base de données unique comprenant près de 110 000 heures d'enregistrement audiovisuel? Combien de souvenirs de rescapés de l'Holocauste est-on parvenu à recueillir? Jitka Drahokoupilová est la première coordinatrice du projet.
Les débuts remontent en 1994. Grâce à Steven Spielberg et son film, une vague d'intérêt en faveur du témoignage s'est mise en marche. Cela a donné lieu à la Fondation pour la Shoah. Dans un premier temps, des équipes de collaborateurs en Europe et dans le monde entier sont allées interviewer des survivants des camps nazis et des personnes persécutées pendant la guerre. Il s'est très vite avéré que ces témoignages constituaient un véritable trésor et on est passé à l'étape de leur traitement, à la division des interviews par section et à l'indexation du matériel dans les thésaurus. Ce langage documentaire nous donne un instrument de recherche qui permet aux utilisateurs de visiter la base de données selon leur choix en fonction des thèmes proposés. Si ce travail avait été fait manuellement, ça aurait pris des dizaines d'années, alors que de cette manière, ça a juste duré 4 ans. Le thésaurus compte 55 000 termes.
Avec 100 volumes de données équivalent à 8 pétabits, l'archive de l'histoire visuelle est l'une des premières bibliothèques numériques au monde. Combien d'interviews de survivants de la Shoah dans quelle langue et de quel pays peut-on entendre en ce moment à Prague sous forme d'enregistrement audiovisuel?
Le plus grand nombre de témoignages sont en anglais et en hébreu, à cause du déménagement d'un grand nombre de survivants en Israël et en Amérique du Nord. Les souvenirs ont été recueillis en 32 langues et dans 56 pays du monde. Le nombre de personnes qui ont apporté leurs témoignages approche le chiffre de 52 000. Chaque interview dure 2 heures en moyenne. Plus de 500 interviews sont en tchèque et plus de 600 en slovaque.
Le fait que l'archive ait trouvé refuge dans les locaux du Centre de linguistique appliquée formelle de la faculté de mathématiques et de physique de l'Université Charles n'est point un hasard, car ce centre a pris part à la documentation des témoignages recueillis. Son directeur, le professeur Jan Haïch, s'est beaucoup employé pour que Prague soit l'un des 3 lieux d'accès en Europe centrale.
Dans notre centre, on a directement accès à l'intégralité des vidéos et des interviews. Les témoignages tchèques sont disponibles immédiatement. Pour les autres, il faut patienter quelques secondes ou minutes avant qu'ils ne parviennent de Californie. Certains témoignages se répondent et se complètent, apportant de nouveaux faits inédits. D'autres sont beaucoup plus émotifs et pour certains visiteurs, il est parfois difficile de les suivre du début à la fin. J'ai lu moi-même une série de témoignages lorsque j'ai travaillé avec ces données. Même si on cherche à garder une distance professionnelle, on ne peut pas rester insensible devant ces choses horribles et vraiment inimaginables aujourd'hui.
Les plus nombreux dans cette archive, plus de 48 000, sont les témoignages des rescapés juifs de la Shoah, auxquels on peut rajouter les souvenirs de prisonniers politiques, ceux des victimes Sinti et Roms de l'Holocauste, des rescapés des expérimentations eugéniques et aussi des témoignages de personnes internées en raison de leur homosexualité. C'est le cas de Pierre Selle, l'un des 1852 rescapés français de la Shoah dont les souvenirs ont été recueillis pour cette archive. Ma guide m'ouvre son témoignage pour que je puisse prendre des notes, car la reproduction des interviews n'est pour l'instant pas possible. Pierre Selle raconte avoir été déporté en mai 1941 par la Gestapo de Mulhouse au camp de redressement de Schirmeck. Après 6 mois de service, il a été incorporé à l'armée allemande de la Wehrmacht pour lutter contre les alliés de la France. Il est sorti du silence 40 ans plus tard pour témoigner. Pierre Selle est décédé en 2005. Une rue a été baptisée en son nom à Toulouse. À Prague, l'archive de la Shoah était baptisée Malach. Jitka Drahokoupilová nous explique d'où vient cette appellation.
La première impulsion vient de la linguistique mathématique, grâce à laquelle les témoignages ont été transmis dans leur forme audiovisuelle actuelle. Le programme s'appelle Multilingual Access to Large Audio Archives, Malach, et donc l'abrégé de ce nom. Or, Malach est aussi un mot hébraïque qui signifie ange, messager. Et c'est cette appellation que je considère comme le plus à propos en raison du message des souvenirs recueillis.
Le projet Malach a pris fin en 2000, mais d'autres vont toutefois suivre.
C'est une nouvelle tâche importante qui incombe à la Fondation pour la Shoah de l'Université de Californie du Sud. Cet institut est conscient que le génocide n'est pas une affaire du passé. De même, de très nombreux témoins des archives de la Shoah ont exprimé leurs craintes vis-à-vis de la répétition de l'idéologie de la haine, du mal et du racisme. Aujourd'hui, l'Institut commence à faire de même avec les horreurs d'autres génocides. Ses collaborateurs parcourent de nouveau le monde pour recueillir les témoignages au Rwanda ou au Cambodge.
L'archive est non seulement une collection de témoignages, mais aussi une source d'informations unique. Elle sert les étudiants, les chercheurs, les pédagogues, et elle est visitée par des personnes qui recherchent leurs proches et par celles qui souhaitent en apprendre plus sur cette étape de l'histoire. C'est un service mis à la disposition de tous. Les visites sont individuelles, sur demande. La faculté qui abrite cette archive a son siège à la place Malostranské, en voisinage immédiat de l'église Saint-Jacques, au pied du château de Prague.
C'était la rediffusion d'un des chapitres de l'histoire diffusé en mars 2010. Merci à Yaroslava Gisubelova pour ce passionnant reportage. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Retrouvez-nous sur internet www.radio.cz.